RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial. Déclaration du président russe Vladimir Poutine ce soir. Il a également confirmé l'utilisation d'un missile balistique hypersonique en Ukraine. On y revient en début de journal. La Cour pénale internationale a émis plusieurs mandats d'arrêt aujourd'hui. Mandat contre le premier ministre israélien, son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas. L'ONU s'interroge sur la situation en Haïti avec cette question. Faut-il une fois encore déployer des casques bleus pour lutter contre les groupes armés? Pas de consensus pour l'instant, on en parle dans ce journal. L'Ukraine est au centre de l'attention ce soir. Le président ukrainien Zelensky dénonce une augmentation de l'ampleur et de la brutalité de la guerre. C'est la Russie qui provoque l'escalade, a déclaré de son côté une porte-parole de la Maison-Blanche ce jeudi. Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine, le président russe, a pris la parole en Russie. Le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, a-t-il déclaré. Le président russe a aussi confirmé l'utilisation d'un missile balistique hypersonique aujourd'hui en Ukraine, lancé sur la ville de Dnipro. Dans l'est du pays. Le président russe parle également d'un test réussi, précisant que cette frappe était une réponse à l'utilisation des missiles à longue portée anglais et américains. Moscou accuse notamment Washington d'aggraver le conflit en ayant autorisé l'armée ukrainienne à frapper en profondeur le territoire russe. Emmanuel Chaz.
Volodymyr Zelensky a pris la parole ce soir pour dénoncer cette nouvelle attaque russe. Le président ukrainien affirme que la Russie se sert de l'Ukraine comme d'un terrain d'entraînement pour ses armes et que le missile utilisé présente toutes les caractéristiques, vitesse, altitude, d'un missile balistique intercontinental. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a quant à lui déclaré attendre les conclusions des experts pour établir s'il s'agit effectivement du premier emploi de missile balistique intercontinental lancé en Ukraine. Sur ce dernier point, en Occident, on ne s'avance pas sur ce missile. Des officiels américains sous couvert d'anonymat parle d'un missile de moyenne portée, mais cette frappe intervient dans un contexte d'escalade après que la Russie ait repris ses frappes à grande échelle sur l'ensemble de l'Ukraine. Dimanche, plus de 200 missiles et drones ont à nouveau visé le secteur énergétique du pays. Mercredi, plusieurs ambassades ont fermé leurs portes à Kiev en raison du danger élevé de nouvelles frappes russes. On s'attend ici chaque jour à une démonstration de force de la part de Moscou en réponse à l'usage par l'Ukraine des missiles à moyenne et longue portée britanniques et américains sur le territoire russe. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale a émis plusieurs mandats d'arrêt aujourd'hui. Des mandats d'arrêt émis contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, famine comme arme de guerre, meurtre, persécution, voilà globalement les chefs d'accusation de la Cour pénale internationale. La CPI compte par ailleurs 123 pays membres et compte notamment sur la police de ces pays pour arrêter les trois accusés. Alors, qu'est-ce que ces mandats signifient pour ces trois derniers? Eh bien, réponse du professeur de droit international à l'Université de Bruxelles, François Dubuisson.
Ça va en tout cas restreindre leur capacité de mobilité parce qu'il y aura un risque s'ils mettent le pied dans un État parti, comme c'est le cas de la France par exemple, d'être arrêtés en application du mandat d'arrêt. Alors, il pourrait y avoir des questions juridiques assez complexes qui pourraient se poser s'agissant de Netanyahou, Premier ministre, s'il bénéficie encore d'une immunité qui empêcherait qu'on l'arrête. Donc il pourrait y avoir des discussions qu'on a déjà eues avec d'autres cas devant la Cour pénale internationale quand il s'agissait de viser des chefs d'État. Mais sur le principe, il y a une obligation d'arrestation et puis de remise à la Cour pénale internationale.
Voilà pour ces propos du professeur de droit international à l'Université de Bruxelles, François Dubuisson. La situation en Haïti est elle aussi au cœur des préoccupations. À l'ONU hier, une question centrale s'est imposée. Faut-il une fois encore déployer les casques bleus en Haïti pour lutter contre les groupes armés? La situation humanitaire est catastrophique. L'insécurité explose. Les Haïtiens sont en souffrance. Là-dessus, tous les États membres sont d'accord, mais l'idée d'une force de maintien de la paix, elle, ne fait toujours pas consensus, Vincent Souriot.
À l'avant-garde, il y a Washington. Les États-Unis estiment que c'est la meilleure option, transformer l'actuelle mission multinationale d'assistance à la sécurité en une véritable force de l'ONU, seul moyen, selon l'ambassadrice américaine, de stabiliser Haïti et de soulager sa population. La Maison-Blanche peut s'appuyer sur la France, le Canada, le Brésil et les pays des Caraïbes, République dominicaine, Grenade, Jamaïque, qui s'inquiètent d'une contagion de la violence à l'échelle régionale et qui poussent en faveur d'un dispositif musclé. En face, il y a le scepticisme séisme de la Chine. Au moins 150 morts en une semaine, 4500 décès depuis le début de l'année. C'est trop dangereux, d'après le représentant chinois aux Nations Unies.
Déployer une opération de maintien de la paix maintenant revient à placer les casques bleus en première ligne face aux groupes armés et à leur faire prendre des risques considérables en matière de sécurité.
De son côté, la Russie pointe le manque de légitimité des dirigeants haïtiens. D'après les diplomates russes, Haïti n'a plus d'autorité constitutionnelle depuis trop longtemps et compte tenu du fiasco des précédentes missions de l'ONU, la population haïtienne, poursuit la délégation russe, a raison d'être extrêmement prudente face à toute forme d'ingérence étrangère.
Vincent Souriot, au Brésil, la police fédérale a recommandé l'inculpation de l'ex-président Jair Bolsonaro. Recommandation d'inculpation pour une supposée tentative de coup d'État afin de se maintenir au pouvoir et ce malgré sa défaite électorale face à Lula en 2022. Bolsonaro accuse de son côté le juge d'agir hors de la loi. Bolsonaro n'est pas le seul concerné. 36 autres personnes font également l'objet d'une demande d'inculpation dans le cadre de cette enquête. En Inde, un scandale de corruption à portée internationale. Les États-Unis accusent le magnat de l'énergie indien, Adani, d'avoir payé plus de 230 millions d'euros au gouvernement indien pour obtenir, en l'occurrence, un contrat dans le domaine énergétique et tromper des investisseurs américains. La charge est lourde pour ce groupe industriel incontournable et proche du pouvoir, à Bangalore comme Bastin.
Voilà qui ne va pas améliorer la réputation mondiale du groupe Adani. Depuis 2 ans, la firme Hindenburg l'accuse de trafiquer ses cours avec des montages financiers opaques. C'est désormais le département de justice des États-Unis qui mène la charge contre ce géant industriel. L'affaire est complexe, mais peut être résumée ainsi. Adani a secrètement reversé des sommes très importantes au gouvernement indien pour s'arroger l'exclusivité d'un appel géant à fournir de l'énergie solaire. Or, cette corruption a été réalisée avec l'argent d'investisseurs américains qui n'étaient évidemment pas mis au parfum. L'entreprise a réagi en niant en bloc les éléments avancés par les États-Unis, mais ceci semble très détaillé. Le cours du groupe a plongé de plus de 20% sur les marchés. Rahul Gandhi, leader de l'opposition en Inde, qui dénonce depuis longtemps la proximité d'Adani avec le Premier ministre Narendra Modi, a exigé son arrestation. Le gouvernement du Kenya a de son côté annulé un contrat de 700 millions d'euros avec le groupe. Bastin, Bangalore, RFI.
Au Bangladesh, une réapparition remarquée. L'ex-première ministre et chef de l'opposition, Khaleda Zia, malade, a fait sa première apparition publique depuis 6 ans, soit 3 mois après la chute du régime de sa rivale, Sheikh Hasina, après des semaines d'émeutes meurtrières. Placée en détention en 2018 pour corruption, Khaleda Zia avait été remise en liberté en août, quelques heures après la fuite pour l'Inde de Sheikh Hasina. C'est un genre musical peu connu en France, mais un phénomène culturel sur la côte est de l'Afrique. Le Taarab de Zanzibar, une fusion d'influences. C'est jeudi et vendredi, le festival Africolor le met à l'honneur avec les 2 concerts de Siti Amina et son orchestre Siti and the Band, Olivier Roger.
À la fin du 19e siècle, dans ce que l'on surnommait alors l'archipel des sultans batailleurs, naît une musique de cour, subtil mélange de musique savante égyptienne, d'influence indienne et africaine, qui donnera le taarab. D'abord conçu pour distraire, le taarab devient au fil du temps une musique de revendication, notamment sous l'influence de femmes puissantes comme les chanteuses Biki Doudé et Siti Binti Saad, Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor.
Dans toute l'histoire du taarab, il y a eu des rapports de tension avec les gouvernants qui parfois ont interdit, etc. Donc on voit bien que c'est une musique qui a une fonction sociale très forte.
Siti Amina est l'héritière de cette tradition d'une chanson militante. En parlant de sa vie et de ses expériences, elle lève le voile sur les tabous de la société. Siti Amina.
J'ai subi beaucoup de violences durant mon mariage. J'ai dû m'enfuir. J'ai pu alors réaliser mes rêves et mes projets. Mais ça, ce n'est pas simplement mon histoire. C'est aussi l'histoire de beaucoup d'Africaines. Comment se battre contre les violences domestiques et contre les inégalités?
Audacieux par nature, le taarab n'hésite jamais à s'ouvrir aux influences, jazz, pop, voire hip-hop enrichissent son répertoire.
Siti and the Band, et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi.